Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Bonjour et bienvenue, je suis ravie de vous retrouver en ce début de semaine pour une nouvelle édition de 90 Minutes Info. On se retrouve pour le débat juste après le flash d'Alexis Vallée aujourd'hui. Bonjour Alexis.
Le pic de l'inflation n'est pas encore passé, mais il durera encore quelques mois. Propos du ministre de l'économie Bruno Le Maire ce matin. Selon lui, les estimations prévoient une décrue de l'inflation vers la mi-2023, notamment grâce à la baisse des prix des matières premières. En Ukraine, des coupures d'eau et d'électricité se sont produites après de nouvelles frappes russes. Plusieurs villes sont plongées dans le noir, comme Odessa ou Mykolaiv dans le sud du pays. Plusieurs responsables des villes et régions ukrainiennes alertent sur des absences de ravitaillement. Et la santé du roi Pelé inquiète les fans de football. Selon sa famille, l'état de l'ancien joueur brésilien ne présente pas de risque. À 82 ans, il est hospitalisé pour une infection pulmonaire. L'ombre de Pelé plane autour de l'équipe du Brésil, qui doit rencontrer ce soir à 20h la Corée du Sud pour une place en quart de finale.
Merci Alexis, et je vous propose de dérouler ensemble le programme de ce lundi avec cette question. Les délestages auront-ils vraiment lieu et le système est-il rodé et efficace? Rien n'est moins sûr. En tout cas, vous vous ferez votre avis en écoutant des experts sur ce plateau.
Je ne sais pas quoi faire en fait. On va être bloqué.
S'il y a une coupure, je serai obligée d'aller me garer dehors, de trouver une place dehors et pouvoir me déplacer. Sinon, je vais être bloqué.
La 9e vague de Covid continue de déferler et la prochaine étape, est-ce le port du masque dans les transports à nouveau? L'exécutif fait mine de ne pas vouloir l'imposer pour l'instant, mais dans les faits, le pourrait-il vraiment? Et puis, on vous fera revivre le match Pape Ndiaye-Éric Zemmour par Radio Interposée, où vous en a déjà sélectionné quelques extraits.
Est-ce que vous considérez que Zemmour a instillé un poison durable dans la vie politique et la société française?
Un poison, il n'y a aucun doute. Durable, j'espère que ce ne sera pas le cas.
Je fais l'éloge de la France. Contrairement à M. Pape Ndiaye, qui passe pas son temps dans toute son œuvre à cracher sur elle alors qu'elle lui a tout donné.
Et voilà, on va commencer le débat avec les invités du jour que j'ai plaisir à retrouver. Bonjour Jonathan Sixou.
Bonjour Mélie.
Je rappelle que vous êtes journaliste chez Causeur. À vos côtés, Michel Chevalet. Bonjour Michel, vous avez passé un bon week-end.
Un grand plaisir de vous accompagner.
C'est super de vous avoir, comme à chaque fois. Bonjour Éric Derine-Matten.
Bonjour Nelly.
Du service Éco, bien sûr. Et puis à vos côtés, Jean-Michel Fauvergue.
Bonjour Nelly.
Bonjour, bienvenue chez nous, ancien patron du RAID et parlementaire. Avez-vous téléchargé les uns les autres EcoWatt? Avez-vous fait comme 200 000 de nos compatriotes ce week-end? Pas du tout?
Pas du tout.
Ah, ça vous intéresse pas du tout? Même pas un peu de curiosité pour voir...
J'entends parler autour de moi.
Michel, je vous pose même pas la question, j'imagine que c'est...
Ah bah c'est ma Bible. Hein.
C'est votre Bible, carrément.
Comme Comics. Et Comics aussi, hein, c'est une application où vous pouvez suivre en temps réel la production et la consommation, mais générale pour toute la France.
Bah vous allez nous en parler.
Ah, oui, les deux.
Pas de problème. Bon, Eric, j'imagine que oui, quand même.
Ah oui, je l'ai eu depuis la semaine dernière.
Conscience professionnelle.
Absolument. J'ai reçu un SMS confirmant mon inscription.
Et Jean-Michel?
Mais ça fera deux partout, parce que non.
Ah, bah moi, je vous avoue que je l'ai fait ce matin. Voilà. Maintenant, il y en a eu 500 000, je crois, qui ont été téléchargés. Alors, nous voici prêts, normalement, à affronter les coupures, les esprits qui sont préparés. Regardez ce que ça donne, quand même. Les petits bémols qu'on a repérés ça et là sur les difficultés du quotidien, si ça devait arriver réellement, c'est avec Jeanne Cancard.
Pour entrer dans son immeuble, Christophe utilise un digicode. Problème, il ne sait pas comment il pourra accéder à son appartement en cas de délestage.
Le jour où il n'y a pas d'électricité, je ne sais pas quoi faire en fait. On va être bloqué.
Même problématique pour l'ascenseur. Cet habitant de la région parisienne vit au 5e étage et doit l'utiliser tous les jours avec sa chienne.
Je vais être obligé de la porter parce qu'elle ne peut pas prendre les escaliers. Donc je suis très embêté, quoi.
Dans cette maison, le portail et le garage ont un système électrique. Mais face aux potentielles coupures de courant, Karine va devoir s'adapter et changer ses habitudes.
Il va falloir trouver une place dehors, sachant qu'à mon avis, tous les voisins ont la même idée. Donc je n'aurai pas beaucoup de place. Il va falloir que je tourne.
Alors concrètement, qu'est-ce qui peut fonctionner ou non lors de ces potentielles coupures de courant? Nous allons poser la question à un électricien.
Donc ça, c'est quoi comme système?
Ça, c'est un système à ventouse. Donc là, on a les électroaimants qui sont là. En cas de coupure de courant, la porte restera ouverte. Il suffira de la pousser pour l'ouvrir. Si ce n'est pas un système à ventouse, ce sera un système à gâche électrique. Donc s'il n'y a pas d'électricité, il ne s'ouvrira pas. Il faudra tirer ça de l'intérieur pour pouvoir rentrer.
Et si on est à l'extérieur?
Pas de solution.
Concernant les ascenseurs et les portails électriques, impossible de les utiliser pendant les coupures. Pour anticiper, vous serez prévenu la veille d'un délestage qui peut durer au maximum 2 heures.
Mais attention, attention, selon le président de la RTE, ça n'est pas forcément une fatalité, pas encore, écoutons.
Alors ce n'est pas certain et ce n'est pas une fatalité, ça va dépendre de la météo s'il fait très froid. Puis s'il fait très froid, nous émettrons un signal éco-watt rouge. Et ce signal éco-watt rouge, il dit qu'on peut programmer des coupures tournantes, sauf si les Français, les entreprises et les collectivités font les bons gestes d'économie d'énergie au bon moment.
Michel Chevalet, petite question simple, ouais, histoire d'évacuer tout de suite le suspense. On pourrait ne jamais avoir de coupure ou il y en
si aura la il l'a bien dit, hein, si la météo, disons, nous est favorable, c'est-à-dire que l'hiver n'est pas trop froid, ça passera. Dans la mesure où, à nouveau, le parc nucléaire, tout doucement, remonte en disponibilité. Voilà.
D'accord. Ça.
Mais vous avez noté la communication en train de se passer. La communication, maintenant, on dit, si jamais vous n'avez pas des gestes éco-citoyens, ça sera de votre faute si on coupera. Vous avez compris?
Mais la balle est dans notre
mais
camp.
Que ça soit l'État, que le parc nucléaire n'est pas ce qu'il faudrait, que les énergies renouvelables ne sont pas assez développées. Non, ça, ce n'est pas notre faute.
Michel fait déjà de la politique, ça y est, il est déjà entré de plein pied dans le débat. On va y revenir, je vous rassure, mais Eric,
oui,
deux ou trois, c'est validé par Jonathan Sixou d'ores et déjà. Eric de Rimaten, deux ou trois précisions peut-être sur les appareils électriques. On l'a vu un petit peu dans ce sujet. Est-ce qu'il peut y avoir des appareils qui soient endommagés? Est-ce que pour les grandes enseignes, ça pose un problème également?
Alors, pour les appareils domestiques, j'ai fait une petite liste. Il vaut mieux mettre à l'arrêt complet l'ordinateur. Parce que si vous travaillez, si vous êtes en veille et que ça s'arrête net, vous savez ce que c'est quand même en péril de perdre des données. Sachant que vous serez prévenu la veille. Hein, le fameux SMS d'EcoWatt, il va vous alerter à 17h. Pour vous dire, attention, demain, possible coupure. Donc, il faut le savoir. Deuxièmement, ne pas mettre en route le lave-linge ou le lave-vaisselle le matin quand vous partez au travail, parce que si ça s'arrête, c'est quand même très ennuyeux avec l'eau qui reste à l'intérieur. La télévision, etc., bon, ça se mettra, c'est pas grave, ça s'arrête, il n'y a pas de conséquences, bien entendu. Maintenant, parlons du réfrigérateur. On se pose la question, si ça s'arrête 2 heures, est-ce que c'est inquiétant? C'est fait pour tenir 2 heures, il n'y a pas de souci. Le congélateur, encore moins de souci, parce que comme c'est déjà congelé, un congélateur qui ne sera pas ouvert avec les aliments au frais, il peut tenir 48 heures s'il est plein. Ben oui, parce que plus il est plein, plus il y a des éléments à moins 18 degrés, et donc ça maintient la congélation. Donc pas de risque. Dans les hypermarchés qui sont spécialisés dans le froid, là c'est différent, parce que vous avez des clients qui entrent, qui sortent, qui ouvrent les coffres sans arrêt, ça fait rentrer de la chaleur. Et en plus de cela, si vous avez des coupures de courant et que vous êtes dans une galerie où c'est fermé, vous n'aurez plus d'éclairage. Là, on envisage peut-être de fermer les magasins.
Michel, j'aimerais vous faire réagir à cette citation de Loïc Le Floch-Prigent. Il sera d'ailleurs l'invité de Laurence Ferrari ce soir. Il nous dit, en tant qu'ancien patron de GDF, je peux vous le dire, le plan de gouvernement face au risque n'en est pas un. Ça va loin quand même. Enfin, voilà, il dit vraiment tout ce qu'il pense. On rejoue un peu le Covid. On appelait aux efforts de monsieur et madame tout le monde. C'est de la communication. Ça n'est pas une politique. Il suffit de décréter l'état d'urgence au lieu de pérorer sur le nombre de douches par jour. Est-ce que vous le rejoignez dans ce côté on ne va pas faire les choses à minima?
Non, ou... Ça va dans ce que je vous dis. Je le connais très bien.
Le Floch,
Jean, je le connais bien. Il n'a pas tort dans ce qu'il dit. Finalement, pour faire des grosses économies, parce que c'est des petits pouillas de kilowatts avec nous, dans les grosses économies, c'est d'abord la grosse consommation, c'est-à-dire ces moyens de transport, par exemple la SNCF qui est le premier consommateur, c'est la grosse industrie. Seulement, ça pose de gros problèmes. Il y a des fours, vous ne pouvez pas les arrêter. Si vous arrêtez un four, tout ce qui est dedans, si c'est de la fonte, ça va prendre en bloc. Vous ne pouvez pas. Ou bien il faut faire les revêtements réfractaires. Ils sont morts, donc il faut redémonter le four. C'est très lourd, le consommateur. Il y a des choses que vous ne pouvez pas arrêter sur le plan industriel. Il y a raison. Les grosses économies, c'est-à-dire du niveau de à peu près de 10 centrales nucléaires, c'est ça, on joue là-dessus, sur la puissance, Eh bien, évidemment, ce n'est pas le particulier.
Jonathan Sixou, est-ce qu'on met trop la pression sur les Français, à nouveau ?
Je trouve. Et depuis quelques jours, il y a comme un changement de la communication gouvernementale qui s'est opéré. Et on est passé de nouveau, mais dans ce sujet-là, dans ce domaine-là, à une communication, non pas de crise, mais par crise. On va, et avec ce que disait Michel pour commencer, effectivement, en gros, maintenant, c'est de notre faute, quoi qu'il arrive. Si on n'a pas, on nous parle de faire des efforts, on nous demande d'avoir les bons gestes, il y a comme ça tout un vocabulaire de responsabilisation, tout en nous infantilisant aussi, parce que attention, si vous faites mal les choses qu'on vous dit de faire, bien, ça va être de votre faute. Et donc, en gros, on nous demande, repose sur nos épaules, l'inconséquence qui a régi des dizaines d'années de gestion de notre parc nucléaire, parce que cette crise n'est que ça. Ensuite, dans cette communication par crise, je m'étonne que le week-end dernier, on ait eu aussi en même temps assez somptueux. D'un côté, vous aviez l'interview au JDD de Mme Pannier-Runacher, ministre de la Transition, qui nous expliquait, là pour le coup, tenez-vous sagement cet hiver, ne faites pas trop chauffer les pattes, etc. Et puis vous aviez cette interview d'Emmanuel Macron le lendemain.
Pas de panique.
Mais il n'y aura pas de coupure.
Pas de panique.
Pas de panique.
Pas de panique, parce qu'il n'y a pas de
coupure, mais...
Il a laissé, sur le ton qu'il a employé, était « il faut tout prévoir, parce qu'il en va de notre responsabilité en tant que gouvernant de prévoir le pire ». Ça, on aurait aimé l'entendre sur d'autres
on
choses.
Est toujours sur
En gros, c'était pour ça. Tout ça, c'est pour au cas où, mais ça n'arriverait pas.
On est toujours quand même sur ce good cop, bad cop. Il y a celui qui est précurseur de mauvaises nouvelles et le père de la nation qui est là pour rassurer.
Oui, mais la gestion de crise, en fait, en réalité... Moi, j'en ai connu quelques-unes, mais la gestion de crise, c'est de prévoir le pire, justement. Mmh. C'est de prévoir le pire et à un certain moment, en se disant... le pire n'est jamais sûr. Et c'est effectivement cette manière de communiquer là qu'on a aujourd'hui. Oui. Alors, effectivement, on peut l'interpréter différemment, mais en réalité, c'est une gestion de la crise qui peut arriver et qu'on n'est pas sûr qui va arriver. Moi, je ne comprends pas, justement, dans la citation là de Loïc Le Floch-Préjean, ce que je ne comprends pas, c'est qu'il suffit de décréter l'état d'urgence. Il suffit de décréter l'état d'urgence. Mais l'état d'urgence, c'est quelque chose de très grave. Et c'est quelque chose qui ne se décrète pas. D'ailleurs, ça passe par la loi. Ce n'est pas un décret. Donc ça passe par la loi. Ce sont des mots très forts qui sont à la limite du responsable. Moi, je ne trouve pas ça responsable de la part d'un homme qui l'est responsable, de dire il suffit de décréter l'état d'urgence. C'est des choses qui ne veulent rien dire et qui, de toute façon, sont calibrées par la loi à un certain moment. On n'en est pas là. On n'en est véritablement pas là. Maintenant, sur le fait de dire faites attention, les Français, si vous faites attention, ça passera. C'est vrai qu'il y a un petit côté... voilà, ça repose sur vous. Or, effectivement... Il y a eu des erreurs par le passé, on les connaît, des erreurs qui ne sont pas forcément que de ce gouvernement ou que du gouvernement d'avant, mais qui datent de dizaines
alors,
d'années.
Alors justement, dans ce concert-là, on parlait d'Agnès Pannier-Runacher. Elle a été interpellée évidemment sur cette question de la souveraineté énergétique. Il y a cette idée quand même qui circule, et même nous, on la relaie ces derniers jours, que si on avait plus investi dans le nucléaire, ou en tout cas si on n'avait pas désinvesti le nucléaire... on serait complètement autosuffisant. Elle dit non, 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 il faut battre cette idée en brèche. On n'a jamais été souverain complètement énergétiquement parlant. Je vais vérifier avec vous tout à l'heure. Écoutons-la et puis je vous ferai réagir, bien sûr.
Nous n'avons jamais été souverains en matière d'énergie. Je tiens à le rappeler.
Jamais.
Depuis
même
des années.
Même quand nos centrales nucléaires fonctionnaient
mais bien
normalement.
Sûr, nous apportons 2/3 d'énergie fossile. Et d'accord, nous en apportons moins aujourd'hui qu'il y a 20 ans. Donc en fait, ce mythe de l'indépendance énergétique relève du mythe. Et précisément ce que fait le gouvernement, c'est de construire cette indépendance énergétique en développant des énergies renouvelables et en développant du nucléaire.
Alors, démêlons donc le vrai ou le faux du vrai.
Remettons en perspective sur le fait du nucléaire. Le nucléaire a été décidé, ce plan d'équipement qui était presque... unique au monde par son importance, a été décidé en 1973, quand il y a eu le premier choc pétrolier, où là, on a pris la mesure de notre dépendance à l'OPEP. On était tributaire avec le coût du pétrole. À l'époque, il était monté à $100. Et c'était la panique, vous vous souvenez, général. Donc, c'est cela qui avait décidé le gouvernement de dire, eh bien, on va redesserrer les taux, mais pas complètement, avec les centrales nucléaires, en intensifiant le programme de construction. C'est ça. Et donc, on n'a jamais été à 100% indépendant. Jamais.
Donc elle, de ce point de vue, elle a raison.
Toujours du pétrole.
De ce point de vue, elle a raison.
On apporte toujours du pétrole et du gaz, toujours.
Le nucléaire, c'était 70 à 72% de la production de notre électricité. Ouais, et nous importions environ 20% de gaz.
Si c'est 72, ça fait un peu plus de 20%. Ça fait 28.
Non, non, mais c'est ça. Non, mais même, on est monté à 80%.
On est monté.
L'indépendance. Non, mais elle a tort de dire ce qu'elle dit parce qu'on avait une indépendance en production.
D'accord.
On était libre. Et en plus, ça coûtait très. Je ne parle pas des investissements, mais ça coûtait très peu cher de produire du kilowatt nucléaire. En revanche, ce qu'elle veut peut-être dire, c'est qu'on était dépendant de l'uranium apporté du Kazakhstan.
Oui, mais d'une certaine manière, est-ce que ce n'est pas se défausser de sa part que de.
Mais si, parce que là, elle parle de mythe, mais là où il y a un mythe total aussi, pour ne pas parler d'enfumage, c'est le mythe de ces énergies. Propre, parce que vous ne faites pas tourner un pays tel que la France avec des éoliennes. Vous ne faites pas tourner un pays européen aux normes occidentales où nous vivons, comme le montrait votre sujet. Nous vivons dans un environnement totalement électrifié, des téléphones aux pans. Et maintenant, on oblige les gens à acheter des voitures électriques. Donc, si vous voulez, l'électricité, on a besoin de savoir ou de resavoir la produire en masse. Et ce n'est pas des éoliennes, ce ne sont pas des panneaux solaires qui pourront permettre de produire suffisamment d'électricité pour répondre à tous les besoins nouveaux de la population.
De toute façon, il y a eu une déperdition dans la production.
On ne sait même plus faire de soudure dans nos centrales.
Et la fermeture de certaines centrales. Ça, il n'y a pas photo là-dessus.
Non, ça, c'est sûr. Oui, à Fessenheim d'abord, et puis surtout le retard considérable avec Flamanville. Ça nous aurait bien aidé il y a 10 ans d'avoir Flamanville. Il y a 15 ans de retard. Il y a 15 ans de retard. Hein.
Plus en 98, Super Phoenix qui a été fermé. Ça a commencé par là. Hein. Ça a commencé par Super Phoenix avec un ministre socialiste et un président RPR, rappelons-le. Hein.
C'est Boisnet qui avait décidé ça. C'est Boisnet.
Oui. Du coup, oui. Non, moi, je trouve que cette communication-là, elle n'est pas à droite, en fait, en réalité. Parce que même si elle est. Si elle est en partie vraie, Michel Chevalier vient de nous le dire, elle n'est pas à droite parce qu'effectivement, ce n'est pas ça qu'on attend. Et je crois qu'il faut arrêter les communications comme ça. Ce n'est pas ça qu'on attend d'un membre du gouvernement maintenant. On attend de dire, voilà, écoutez, on est dans une situation qui est ce qu'elle est parce que c'est dû à un certain nombre de choses. On l'a beaucoup expliqué sur ces plateaux. Maintenant, on met les bouchées doubles. On va dans ce sens. On va essayer de faire en sorte que ça ne se reproduise pas pour nos enfants dans les années à venir, parce que ça met extrêmement longtemps. Il faut reconnaître aussi qu'on a pris du retard aussi dans les énergies, le solaire et l'éolien. On a pris du retard sur le
renouvelable. Oui, mais il vous dit qu'on ne peut pas une indépendance totale dans le sens où effectivement
non, mais faut faire un mixte. On a toujours parlé de mixte énergétique en ce domaine-là, avec le renouvelable, avec le nucléaire et une part résiduelle d'autres choses. Mais on a quand même pris du retard sur le.
En tout cas, vous vous êtes bien démarqué de cette majorité à laquelle vous apparteniez. Hein. Vous avez retrouvé votre liberté de ton complète. Hein. On le remarque jour après jour.
Vous avez renforcé, c'est dit, en illustrant votre propos, mon cher, et c'est vrai ce que vous dites, avec la situation actuelle. Et on n'est pas en période de crise. Ce n'est pas le grand froid.
Ouais.
Aujourd'hui, les centrales nucléaires, il nous en manque, mais elles débitent 60% pour nous. Mais j'ai le solaire, le solaire, il ne fait que 9%. Et l'éolien tant vanté, comme il y a un anticyclone, il n'y a pas de vent, 2%. Vous pouvez mettre toutes les éoliennes que vous voulez sur la surface de la France.
Oui. Allez, un dernier mot, puis on reviendra aussi au système qui sera mis en place.
Un dernier mot sur un paradoxe assez ahurissant. La France va s'apprêter bientôt devant les pays européens, peut-être à devoir payer des amendes records qui vont se compter en centaines de millions d'euros. Pourquoi ? Parce que nous ne sommes pas aux normes, au niveau de toutes ces installations vertueuses, telles que l'éolien et le solaire. Or, la France est le pays d'Europe qui émet le moins de particules en tout genre. Et nous sommes le pays le moins polluant d'Europe. Et pourtant, on va devoir payer des centaines de millions d'euros.
Parce qu'on
n'a pas mis assez d'éoliennes et pas assez de panneaux solaires aux yeux des lobbies bruxellois.
Alors, si vous n'avez pas tout compris à la manière dont va fonctionner EcoWatt, et puis on va revenir aussi au roulement qui sera établi dans un instant. Je vous propose de regarder ce reportage qui est très bien fait sur l'appli et son fonctionnement lui-même.
C'est l'application la plus téléchargée sur les téléphones portables ces derniers jours. EcoWatt permet de vous alerter en temps réel sur la consommation nationale d'électricité. En vert, tout va bien. En orange, le système électrique national est tendu. Il faut réduire votre consommation d'électricité. En rouge, attention, la situation est très tendue. L'économie d'électricité est indispensable pour éviter une coupure. Sur cet exemple, l'application indique que la situation va être compliquée entre 8h et 10h et 17h et 19h et que le risque de coupure est très élevé entre 19 et 21h. En cas de signal orange ou rouge, vous devrez donc réduire votre consommation en adoptant des gestes simples recommandés par EcoWatt. Parmi eux, baisser la température à 19 degrés, réduire l'utilisation de l'eau chaude ou encore couvrir les casseroles pour raccourcir le temps de cuisson. Chaque jour, aux alentours de 17h, vous pourrez également savoir si vous êtes concerné par ces délestages. Dans les prochains jours, des milliers de personnes pourraient se rendre sur l'application simultanément. Le gouvernement rassure, EcoWatt absorbera cette multitude de connexions.
Éric, comment ça va se passer? Une même région pourra-t-elle être touchée plusieurs fois dans l'hiver? C'est la question que tout le monde se pose, évidemment.
Alors, si vous voulez, c'est une loi, c'est un code de l'énergie qui date de 1990, qui a la liste des grandes catégories protégées en France. Oui. Donc ce sont des villes parfois intouchables, des quartiers intouchables, parce que vous avez un hôpital, parce que vous avez une prison, parce que vous avez des centres stratégiques. Donc ça, on n'y touche pas. Ce qui veut dire que si vous habitez près d'un hôpital, vous êtes sûr de ne pas avoir de coupure. Ensuite, cette liste est envoyée. Vous avez RTE qui va alerter en disant « Attention, demain, on a un risque de manque de production ». Ça, c'est RTE, Transport Électricité, qui alerte le préfet qui, lui, va prendre sa décision des quartiers à priver d'électricité. Et c'est Enedis qui fait la distribution, qui fera le délestage, la coupure ou ce qu'on appelle maintenant
d'accord,
le roulement.
Mais comment, par exemple, je vous prends un exemple pratico-pratique, comment vous décidez entre l'Eure et le Vaucluse?
Ah bah alors là, qui c'est la question, est-ce que vous allez couper la Tour Eiffel pour
non, mais vous voyez, c'est parce qu'on consommera plus en Normandie
alors,
ou
vous avez raison, c'est une très bonne question que j'ai posée à RTE. Ils m'ont dit, on va regarder en priorité le chauffage électrique. C'est ce qui consomme le d'accord. plus. En fait, la véritable menace... c'est le petit appareil électrique, vous savez, le convecteur, qui consomme énormément. Et là, vous voyez la roue tourner à tout. Il suffit de brancher un convecteur. Vous avez vu, ça tourne à toute vitesse sur le compteur. C'est ça qui sera traqué par justement.
Donc,
RTE.
Michel, en résumé, il y aura quand même les bons et les mauvais élèves dans l'histoire.
Je vais apporter, modérer une petite précision, une mise en perspective. Il y a d'abord, toujours, c'est le problème en France. Il y a EDF, il y a RTE, et puis il y a Enedis. Nous, notre interface. RTE, lui, ne peut donner, c'est le distributeur de courant fourni par EDF, que la tendance générale pour la France. Et qui dit, attention, la situation va être tendue. Il ne dit pas, on va couper. Nous risquons, simplement. Ça va s'affiner. Ça, c'est 3 jours avant. C'est le rouge. Maintenant, sur localement, qui va le faire? C'est le préfet, en liaison avec Enedis, avec des agences régionales d'Enedis, l'espèce de taux de contrôle, qui, eux, connaissent. Les situations prioritaires, ouais, c'est ce qu'on a dit, mais également, il va être capable de dire, on va, à 19h, on veut dire, il y a EcoWatt, et il va y avoir un site Enedis. Et ce site Enedis, vous allez savoir si votre rue va être coupée ou pas. Vous voyez, c'est beaucoup plus fin, la prévision.
D'accord. Bon, allez, on va s'interrompre. Voilà. Merci beaucoup.
Pour conclure, elle a fière allure, notre start-up nation.
C'est-à-dire
C'est-à-dire que ce pays qui devait être un exemple en bien des domaines, et notamment dans les matières de la tech, high-tech, etc., on en est à calculer quelle rue va avoir de l'électricité ou pas. Rappelez-vous qu'il y a un mois, les gens faisaient la queue pendant des heures pour faire le plein d'essence.
C'est pas un signe de... Ouais,
c'est toute l'Europe, ça.
Ça fait des heures sur le plan international.
Un petit peu aussi.
Après, ils vous diront, on va vanter les mérites de l'appli. L'appli, c'est du numérique, donc c'est du progrès. Vous voyez, chacun... Il y a à en prendre, à en laisser tout le monde. Allez, on s'interrompt quelques minutes et puis on reviendra pour parler notamment de ces joutes verbales par médias interposés. Deux visions de l'immigration, vous l'aurez compris, entre Emmanuel Macron et Éric Zemmour, reconquête qui fêtait sa première année d'existence ce week-end. Et puis surtout, cette passe d'armes aussi entre le ministre de l'Éducation, Pape Ndiaye, qui critique vertement Éric Zemmour, qui lui répond. À tout à l'heure.
Regardez votre programme avec Samsonite Proxys. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
Comment on s'organise?
Éric Dorimaten, bon rebonjour. Oui, comment éviter, pour votre chronique éco, le chaos des fêtes de fin d'année à la SNCF? Comment on s'organise?
Alors, je voulais vous en parler parce qu'il se passe quelque chose d'étrange à la SNCF. Vous savez qu'il va y avoir les négociations salariales cette semaine, les NAO, et que les syndicats ont proposé de se mettre en grève le jour des NAO. Ça va avoir lieu mercredi et jeudi. Le week-end qui vient de passer, on a quand même eu 60% des trains bloqués par les contrôleurs. Hein. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que la SNCF s'inquiète de ce mouvement, parce que comme le dit le président Jean-Pierre Farandou, il n'a pas vu arriver la grogne des contrôleurs, et je dirais même plus, pas seulement des contrôleurs, mais des catégories de cheminots dont on parle peu, qui s'estiment lésés, mal payés, et puis surtout dans un système inconfortable, parce qu'ils ont beaucoup souffert avec le Covid. Donc, ils n'ont pas vu monter ce mouvement. Et alors, j'ai effectivement vérifié, il y a un collectif qui est en train de se créer, qui s'appelle le collectif des agents du service commercial. Ils ont créé un groupe sur Facebook, ils sont déjà 3000. C'est eux qui ont organisé cette grève du week-end passé. Et là, eh bien, ils réclament de la reconnaissance, ils réclament des primes. Alors, comment la SNCF peut réagir à cela ? On apprend, alors c'est une révélation de notre confrère Le Parisien, que l'an dernier, 200 millions d'euros ont été lâchés pour aider sur le plan des salaires, donc les cheminots, et que la SNCF pourrait doubler cette année la mise pour éviter l'embrasement. Mais je termine par un point. La SNCF se retrouve face à un triple problème. Le premier, c'est que les billets de train, vous savez, vont augmenter l'an prochain, donc mécontentement chez les passagers. Les coûts de l'énergie multipliés par 3, avec ce qu'on est en train de dire en ce moment. Et puis la hausse des salaires qu'il va falloir gérer. Donc vraiment, la SNCF n'est pas au bout du tunnel.
Merci beaucoup. C'était la chronique Écho.
C'était votre programme avec Samsonite Proxys. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
De retour dans 90 minutes info avec Simon Guillain, à qui on avait manqué décidément puisqu'il est déjà de retour. C'est le JT. Bonjour Simon.
Bonjour Nelly, très heureux d'être de retour parmi vous cet après-midi. Emmanuel Macron est en visite dans les Bouches-du-Rhône. Un déplacement à l'occasion du 10e anniversaire de l'ouverture du mémorial du camp de Mille et un camp français de déportation. Pour plus de 10 000 prisonniers, c'était entre 1939 et 1942. Pour ce déplacement, le président français est accompagné de Gérald Darmanin et de Pat Ndiaye. Et Emmanuel Macron s'est exprimé il y a quelques instants sur place. On l'écoute.
Le camp des Mille n'était pas un accident de l'histoire, mais le fruit d'un glissement délibéré vers le crime. Que le camp des Mille venait de plus loin, de la haine antisémite de l'affaire Dreyfus, de la lente érosion de l'esprit républicain et de son effondrement brutal. Et que seul l'enseignement pouvait briser la répétition de la tragédie qui eut lieu ici, entre ces murs d'argile, dans cette pénombre, dans ces wagons convoyés par les assassins.
Et on poursuit ce journal avec cette question. Est-ce qu'il y aura des bûches sur la table de Noël avec l'inflation ? Le prix de ce dessert essentiel aux fêtes de fin d'année s'envole à tel point que certains pâtissiers ont décidé de faire une croix dessus. Jean-Michel Decaze et Mickaël Chaillot.
Dans cette pâtisserie près de Nantes, on a l'œil rivé sur la température du four, mais aussi sur le prix des ingrédients. Pour les bûches de Noël, le beurre est passé de 6 à 11 euros le kilo. Pour que le prix n'explose pas, les recettes sont revisitées.
On va peut-être moins partir dans de la bergamote, dans du yuzu. On va plus revenir sur du basique pour maîtriser nos coûts. On a fait des décors un peu différents. Un peu moins des bûches, un peu moins chargées, mais toujours aussi festifs.
À quelques kilomètres, les patrons ont pris une décision radicale.
On a fait le choix de pas en faire.
Pas de bûches pour Noël, les matières premières ayant augmenté en moyenne de 10% en plus du coût de l'énergie. Ici, on préfère proposer du pain bio pour les fêtes.
La bûche, elle serait aux alentours de 5 euros, donc ça fait quand même pour le consommateur le prix d'une petite bûchette assez cher.
5 euros la part.
Oui, 5 euros la part. On préfère ne pas en faire plutôt que d'en jeter.
Il faut mobiliser nos clients à commander. On va maîtriser nos pertes et puis on n'aura pas besoin de refaire cuire des demi-fours de biscuits.
En moyenne, la part de bûche devrait augmenter de 9 à 10% par rapport à l'an dernier.
Également dans l'actualité de ce lundi, le début des débats au procès des attentats de Bruxelles. Des attentats qui ont fait 32 morts et 340 blessés dans le hall de l'aéroport de Bruxelles et dans une station de métro de la ville. C'était le 22 mars 2016 et on va justement aller sur place retrouver nos envoyés spéciaux Sandra Buisson, accompagnée d'Olivier Gangloff. Rebonjour Sandra, le procès s'est ouvert sur les conditions de transfert que mettent en avant les accusés. Racontez-nous tout Sandra.
Oui, ça s'est passé juste après que la présidente ait expliqué aux jurés qu'il n'y avait pas de place dans ce procès pour la vengeance. Mohamed Abrini a pris la parole. Ça fait 7 ans, a-t-il dit, qu'on subit votre vengeance, vu les conditions dans lesquelles on nous transfère. Il dénonce des mesures de sécurité drastiques qui sont imposées aux accusés, et notamment des fouilles à nu, mais aussi les transferts jusqu'à ce palais de justice, les yeux bandés et de la musique satanique à fond dans les oreilles, a-t-il dit. Si on doit subir encore encore ces humiliations. Je ne répondrai à aucune question, a-t-il enchaîné. Mohamed Abrini, qui comparaît ici notamment pour avoir emmené sa bombe jusqu'à l'aéroport de Zaventem le 22 mars 2016 et qui a finalement renoncé à la déclencher. D'autres avocats de la défense ont dénoncé ces mêmes conditions de sécurité, indiquant que ça ne favorisait pas la participation des accusés au procès, laissant craindre un risque de propagation du mutisme dans le box aux grandes dames des parties civiles. Déjà ce matin, Oussama Krayem a refusé de décliner son identité. Oussama Krayem, qui est l'autre accusé de poids de ce procès, puisque le 22 mars 2016, il a renoncé au dernier moment à se faire exploser dans la station de métro Malbec.
Merci beaucoup Sandra Buisson pour toutes ces explications. Sandra Buisson donc en direct de la cour d'assises de Bruxelles. C'était il y a 5 ans déjà le décès de la légende Johnny Hallyday à l'âge de 74 ans. Johnny, c'est près de 60 ans de carrière et plus de 1000 chansons enregistrées. Une messe d'anniversaire aura lieu vendredi dans l'église de la Madeleine à Paris. Alors 5 ans après, que reste-t-il de Johnny à Marne-la-Coquette dans les Hauts-de-Seine? C'est une ville où il a habité pendant très longtemps. Régine Delfour, Kin, Sun et Charles Baget.
À Marne-la-Coquette, depuis le décès de Johnny Hallyday, les riverains n'ont qu'une envie, se faire oublier. L'ambiance n'est pas non plus rock'n'roll devant ce parc privé où se trouve derrière la villa de 900 mètres carrés du chanteur. Devenu un temps un lieu de pèlerinage pour les fans de Johnny, 5 ans après, les fleurs et les bougies ont disparu, nous raconte Romain qui travaille juste à côté.
Jusqu'à il y a environ 2 ans, il y avait encore des gens qui venaient régulièrement demander si c'est bien là que Johnny habitait ou qui venaient déposer une fleur, une bougie ou voilà, des objets. Et là, ça doit faire à peu près 1 ou 2 ans que ce n'est plus le cas.
Pour retrouver une trace du rocker, il faut se rendre au restaurant Les Hirondelles. Marie-Yvonne Justal, la propriétaire aujourd'hui à la retraite, se souvient parfaitement de Johnny.
Cette photo, c'était le soir du 8 juillet 2017, où il est, avant de rentrer chez lui, il a passé ce moment merveilleux avec moi, en tête à tête. Il est arrivé en même temps que la tempête de 1999. Il est reparti avec une tempête d'amour.
Marie-Yvonne conserve la salle de son restaurant telle qu'elle, avec les souvenirs de Johnny pour ses proches et les passants.
Ça fait 5 ans. Moi, c'est toujours le même vide en ce qui me concerne.
Malgré la nostalgie, elle espère que la demeure de Marne-la-Coquette, laissée vide, retrouvera un heureux acheteur.
Et enfin, le rendez-vous des passionnés de la mer, c'est en ce moment à Paris et c'est jusqu'au 10 décembre. Le Salon Nautique a ouvert ses portes samedi et nous nous sommes rendus sur place ce matin. Augustin Donadieu et Laurent Sélarier nous font visiter un bateau de luxe, mais pas vraiment comme les autres. Regardez.
Nous sommes sur un bateau unique au monde, un First 44, un voilier de plus de 14 mètres, alors luxueux, 3 chambres doubles, 2 salles de bain, une cuisine, un salon, mais également un bateau qui présente 3 innovations technologiques, écologiques, uniques au monde. La première, c'est un pont à l'extérieur, non plus recouvert d'un teck, un bois précieux, mais d'un bois africain, l'iroko, prélevé dans des forêts gérées durablement. La deuxième innovation, c'est cette coque qui est composée de résine, une résine 100% recyclable, qui permettra à la fin de vie de ce bateau eh bien, d'être recyclée et d'être réutilisée dans la conception d'un nouveau bateau. Et enfin, la troisième innovation écologique, elle se situe sous nos pieds, juste sous ce plancher, ces 2 énormes batteries qui alimentent pour la première fois au monde un moteur de voilier électrique. Il faut savoir que couplé à un générateur, ce bateau a une autonomie de plus de 80 heures en navigation et de plus d'une semaine en autoconsommation, loin des ports, le tout pour alimenter évidemment le frigo, le chauffe-eau, l'éclairage, le chauffage. Autant vous dire qu'à grâce à ce bateau, on peut imaginer de très bonnes vacances.
Et voilà pour ce tour de l'actualité à 16h. C'est à vous, Nelly Denac, pour la suite. Et
de merci Simon, je vous y verrai bien dans ce bateau. Je suis sûre que vous avez le pied marin en plus. Merci, à une prochaine. On était ravis de vous avoir cette semaine sur le plateau. Jonathan Sixou est là, toujours.
Toujours.
Je rappelle que vous êtes journaliste chez Causeur, ainsi que Jean-Michel Fauvert, qui est ancien patron du RAID. Merci à tous les deux d'être restés. Et on accueille Élodie Huchard, journaliste politique. Bonjour Élodie. On va parler de ces 2 visions de l'immigration pour une même France, a priori. Emmanuel Macron et Éric Zemmour, qui se sont épanchés dans la presse sur l'idée qu'ils se font, chacun à leur manière, de l'immigration et du sens que l'on doit prendre en la matière. Le second, évidemment, accueillant le premier, de vouloir faire de la France un pays du tiers-monde. Élodie, on va peut-être revenir Pour commencer, au contexte de l'interview d'Emmanuel Macron, ça se passe consécutivement à sa visite aux États-Unis. C'est peut-être important de le rappeler aussi.
Oui, effectivement, Emmanuel Macron qui a choisi de faire une interview assez longue sur sa vision d'un certain nombre de sujets. D'abord, il parle beaucoup d'international dans cette interview. Et puis ensuite, on lui est posé la question notamment de la réforme des retraites et donc de la réforme de l'immigration. Alors, un président de la République qui, dans les colonnes du Parisien hier, était très optimiste. On le rappelle, ça va être la 29e loi sur le thème de l'immigration depuis 1980. Mais Emmanuel Macron en est persuadé, cette loi va être utile. Il dit un certain nombre de choses dans cette interview pour justifier justement cette loi. Première citation du président de la République. « Aujourd'hui, soyons lucides, est-ce qu'on pense sincèrement que la restauration, les travaux agricoles et beaucoup d'autres secteurs tournent sans immigration ? Il faut avoir l'honnêteté de le dire. La réponse est non. » Alors forcément, il tente de justifier sa loi, mais il tend aussi la perche aux oppositions parce que ce qu'on entend inévitablement, c'est « il y a du chômage en France, il y a des emplois non pourvus, donc pourquoi devoir recourir à de la main-d'œuvre étrangère ?» Et puis Emmanuel Macron qui tente, pour ne blesser personne et tenter d'avoir une majorité sur le texte, de faire du « et en même temps ». D'abord avec cette phrase. « Nous avons un modèle généreux, mais on doit mettre des barrières à l'entrée, car on ne peut pas accueillir tout le monde. » Il faut être généreux, ça fait plaisir à la gauche. Il faut mettre des barrières. Il parle aussi de faciliter le retour des clandestins. Ça fait plaisir à la droite. Le problème, c'est qu'à force de vouloir parler à tout le monde, le risque, c'est que finalement, il ne parle plus à personne. Et puis, il dit ceci, alors ça, c'est la phrase un peu « et en même temps » de l'interview. Ouais. « Il faut une politique de fermeté et d'humanité fidèle à nos valeurs. C'est le meilleur antidote à tous les extrêmes qui se nourrissent des angoisses. » Parce qu'évidemment, Emmanuel Macron n'a pas envie de laisser cette question de l'immigration dans les mains de Marine Le Pen et d'Éric Zemmour. Et puis, il y a surtout une phrase qui a attiré l'attention d'Éric Zemmour. Il en a parlé hier dans son meeting, quand le président de la République dit « la France a toujours été une terre d'immigration ». Eh bien, Éric Zemmour n'est pas d'accord avec ça. Il lui rétorque ceci. « Non, monsieur Macron, les immigrés européens du 19e et 20e siècle n'ont rien à voir avec les immigrés maghrébins et africains d'aujourd'hui ». On voit donc un président de la République qui tente déjà de défendre sa loi. Demain, à l'Assemblée, Elisabeth Borne va s'exprimer à ce sujet. Mais on voit bien que finalement, plus on apprend ce que va contenir la loi, plus on la survend, finalement, plus les oppositions sont contre.
Alors, avant de revenir aussi, parce qu'il a dit plein d'autres choses, Éric Zemmour, effectivement, dans cette intervention, premier, ça, tout ce que dit Emmanuel Macron, c'est un vœu pieux. Hein, c'est-à-dire que c'est un peu facile, non, de dire ces choses à l'emporte-pièce. On ne voit pas trop la précision de ce qu'il nous dit.
Il n'y a strictement rien de précis dans ses propos. C'est plein de bonnes intentions, c'est charmant, mais ça ne répond absolument pas aux obligations que le réel nous impose et nous commande des réponses factuelles.
Mais on s'interroge presque, pourquoi donner le bâton pour se faire battre en la matière ? Enfin, pourquoi accorder des interviews dans lesquelles il dit rien de substantiel ?
Mais parce qu'il est suffisamment prudent pour ne pas justement se donner des bâtons pour se faire battre en restant jupitérien comme ça, et évasif en nous parlant de grandes valeurs, d'humanité, etc. Il ne mouille personne et lui le dernier.
Là, il prête quand même un flanc à ses oppositions.
Évidemment, à son opposition à évidemment. Ouais. Mais là, je pense qu'il prend moins de coups en disant des phrases vides de sens qu'en prenant position qui nécessiterait un courage politique qu'en la matière, il n'a pas vraisemblablement.
Oui. Alors, j'aimerais qu'on s'attache aussi, Jean-Michel Fauvergue, on va le voir, à ce qu'a dit Éric Zemmour quand il parle de société hétérogène. Ça aussi, c'est un extrait qui est quand même assez intéressant. Et puis, on va peut-être parler du contexte aussi de l'intervention d'Éric Zemmour, parce qu'il y avait les 1 an de reconquête ce week-end. Il nous dit, le président, dans l'opinion, les sociétés hétérogènes sont criminogènes, les sociétés multiculturelles sont multiconflictuelles et les sociétés multiraciales tournent très souvent en société multiraciste. C'est-à-dire qu'en disant ça, il bat en brèche l'idée du vivre ensemble, quoi. Pour lui, il n'y a pas de vivre ensemble qui soit possible et envisageable, Jean-Michel Fauvergue.
Tout à l'heure, Jonathan disait que le discours d'Emmanuel Macron était creux. Moi, je ne trouve pas qu'il soit creux. Je vous rassure là-dessus. Mais là, pour le coup, tout ce qui est dit là, c'est complètement creux. Je veux dire, ça ne veut rien dire et ça ne repose sur rien du tout, d'une manière générale. Rien n'est démontré dans cette affaire-là. En fait, en réalité, qu'est-ce qu'on a en termes d'immigration ? On a, dans un pays comme la France, comme dans notre pays, on a deux types d'immigration. On a une immigration dont les Français ne peuvent plus supporter, qui est une immigration, puisqu'on parle d'immigration dans ce domaine, une immigration criminogène, une immigration des mineurs non accompagnés, une immigration de l'islam radical. Ces immigrations-là existent, ces immigrations-là,
Il faut les combattre. Parallèlement, vous avez aujourd'hui des chefs d'entreprise qui demandent à régulariser des gens qu'ils ont déjà employés, qu'ils emploient déjà, qui sont en situation irrégulière, qu'ils emploient dans le domaine, dans le domaine économique.
C'est l'objet de la loi.
Alors, voilà. la problématique, c'est que certes, le président de la République parle de « en même temps », mais ce « en même temps », il existe dans notre société. Les deux choses existent et cohabitent dans notre société.
Et donc pour vous, Éric Zemmour, il fait des amalgames,
pour comprendre. Et on a tous des exemples au coin de notre rue, connaître un immigré qui est dangereux, qui profite des stupes, et un immigré qui est en train de travailler et qui lui aussi est une victime de cette immigration criminogène. Donc il faut travailler sur ce domaine-là. Qu'est-ce qui est annoncé aujourd'hui ? Il est annoncé une loi. Alors vous allez dire, c'est la xième loi depuis x temps. Sauf que les choses évoluent, il faut les faire évoluer. Et dans la loi actuelle, il y a des choses que les Français réclament et qui ont été réclamées aussi par les oppositions et en particulier par le RN et par les LR. Qu'est-ce qui est réclamé ? Eh bien, ne plus donner par exemple le RSA et d'autres aides, et en particulier les logements sociaux, à des gens qui sont frappés d'OQTF. Alors c'est quelque chose d'évident, mais pour l'instant c'est pas fait.
C'est pas
donc
fait,
il faut
ouais.
le faire, il faut le passer par la loi. Et ça, on verra bien si les oppositions qui le réclament voteront. Ça sera un vrai moment de vérité.
Élodie Huchard, peut-être rappeler, je le disais, le contexte de ces interviews accordées par Éric Zemmour. Éric Zemmour, il est un peu revigoré aussi parce qu'il a renoué avec ses troupes hier à l'occasion des 1 an de reconquête. Ça fait un petit moment qu'il avait quand même un peu disparu du champ médiatique. Et là, il est revenu plein pot, enfin je veux dire vraiment de plein pied sur ses fondamentaux. Hein.
Oui, parce que forcément, pour Éric Zemmour, exister après l'échec à la présidentielle et surtout sans groupe et sans élu à l'Assemblée nationale, c'est forcément compliqué parce que médiatiquement, vous n'existez pas forcément. Et puis surtout, il y a eu un temps pour lui, après ces échecs, oui. Un, pour revoir le fond, sur quel thème il pouvait aller, notamment l'école, on va en parler dans un instant. Et puis aussi pour faire le point au sein du parti. Il y a eu des dissensions, il y a eu des départs, il fallait aussi réorganiser tout ça, le remettre en ordre de marche. Et donc effectivement, il y a eu ce discours hier, les 1 an de reconquête, qui avait notamment l'objectif, et c'est ce que nous disaient ces troupes, de remobiliser les militants. Beaucoup de cartes arrivaient à échéance et donc évidemment les partis ont besoin de ces cartes et de ces adhésions pour continuer à survivre. Et donc finalement la date tombait assez bien. Ça a été un moyen, effectivement, on le voit dans les extraits qu'on vient de passer, de revenir sur ses fondamentaux, de remobiliser les troupes. Et puis surtout, il va y avoir une échéance électorale, il n'y en est pas encore, mais ce sont les européennes de 2024. On sait qu'Éric Zemmour, il pense déjà qu'il commence à s'organiser. Est-ce qu'il sera lui-même tête de liste ? Est-ce que ce sera Marion Maréchal ? Il y a encore des choses évidemment à arbitrer, mais c'était aussi une nouvelle séquence pour Éric Zemmour, oui. Qui maintenant, et on le voit d'ailleurs encore dans des interviews ce matin, va être de plus en plus présent.
Alors vous y avez fait allusion, l'autre duel à distance évidemment, c'est entre Éric Zemmour et Pape Ndiaye, le ministre de l'Éducation, qui a le premier lancé les hostilités. Écoutez.
Est-ce que vous considérez que Zemmour a instillé un poison durable dans la vie politique et la société française ?
Un poison, il n'y a aucun doute. Durable, j'espère que ce ne sera pas le cas. Mais c'est un polémiste professionnel complètement dévalué, à la fois d'un point de vue intellectuel. Lorsqu'on dit que Pétain a sauvé les Juifs, effectivement, je crois qu'on n'a plus grand-chose à dire sur quoi que ce soit, et certainement pas sur les sujets d'histoire, ou bien que le capitaine Dreyfus n'était pas si innocent que ça, d'après Zemmour. Et puis, d'un point de vue politique, ce sont des discours de haine.
Bon, la question du journaliste était un petit peu orientée, il faut le dire, c'est lui qui utilise le terme de poison, ouais. En premier lieu. Jonathan Sixou, en gros, sur le reste de l'intervention de Pape Ndiaye, il accuse Éric Zemmour de réécrire l'histoire et de propager la haine. Hein. Il reprend toujours cet exemple, effectivement, de Pétain qui aurait sauvé les Juifs, et puis il l'étend même à l'affaire Dreyfus, désormais. Est-ce que vous trouvez que c'est un peu idéologiquement contestable, on va dire, d'aller sur ce terrain-là, alors qu'au départ, ce n'était pas du tout l'objet de la question ?
La question est très orientée, de toute façon. Là où le ministre en rajoute, si je puis dire, c'est qu'il aurait pu botter en touche, d'un mot répondre à la question du journaliste et donner sa réponse.
Il dit « j'ai du champ, allons-y ».
Exactement. Ouais. Non, que fait-il ? Il approfondit le sillon et il en trace d'autres en même temps pour y aller de sa position, qu'on soit contre les positions d'Éric Zemmour, surtout sur ces questions-là, qui sont très particulières. Et je pense que c'est une grande maladresse d'Éric Zemmour de les avoir abordées au sein d'une campagne présidentielle. C'est des sujets qui font débat au sein de la communauté des historiens, déjà. Mais quand on sait que des débats entre historiens, nécessite des argumentations, nécessite des recherches, des bibliographies, enfin plein de choses que vous ne pouvez pas avoir le temps de proposer sur un plateau de télé. C'était une grande, grande maladresse. Il n'a pas
regretté. Je pense qu'il se le dit tous les jours et il y repense tous les jours.
Oui, je ne sais pas s'il le regrette, voyez-vous. En revanche, là où Papa Ndiaye est totalement dans une mauvaise foi terrible, c'est que lui, il fait aussi à sa façon, il tord aussi le coup à bien des faits dans un tout autre genre et dans sa façon de racialiser la société française qu'il fantasme comme une société américaine qui n'aurait pas encore... qui ne se serait pas encore guéri de son racisme systémique.
C'est ce que va lui dire Éric Zemmour sur RTL. Hein. Il lui fait un procès même en loyauté vis-à-vis de son pays. Écoutez.
Je réponds que moi, contrairement à M. Papa Ndiaye, je n'attaque pas la France alors que je suis ministre aux États-Unis. Et je ne dis pas que la France, il est difficile de parler des races. Je ne suis pas un intellectuel indigéniste qui dit que la France est raciste parce qu'elle est simplement assimilationniste. Moi, vous comprenez, comme M. Papa Ndiaye, la France m'a tout donné. J'ai pu faire des études passionnantes, j'ai pu avoir des diplômes comme M. Papa Ndiaye, j'ai pu élever mes enfants très correctement comme M. Papa Ndiaye, qui les met dans une école privée et qui fait après la leçon à tout le monde. Seulement moi, je fais l'éloge de la France. Contrairement à M. Papa Ndiaye qui quand passe son temps dans toute son œuvre à cracher sur elle alors qu'elle lui a tout donné.
Bon, l'idée aussi c'est de dire aller commisérer sur son propre pays à l'étranger, c'est ça qui pose problème. Ouais. C'est pas la première fois qu'on en parle bien sûr, ça avait déjà été critiqué hein, cette réaction de Papa Ndiaye quand il était aux États-Unis, mais là il en remet une petite couche. Vous êtes d'accord avec lui sur le fond qu'un ministre de l'éducation ne devrait pas dire ça?
Moi je vois, si vous le permettez, je vois un match de tennis entre deux, et avec des renvois de balles entre deux personnalités politiques, et qui ont les deux effectivement profité de l'universalisme et des valeurs de la France et de l'école française et du système français. Tous les deux ont profité de ce système-là, et tous les deux aujourd'hui défendent chacun à leur niveau et chacun de leur côté. D'un côté, l'extrême droite avec Éric Zemmour, et de l'autre côté, de l'admirateur du wokisme américain de l'autre côté. Tous les deux sont en train de critiquer un système qui les a fait, qui les a construits, qui les a menés là où ils sont. Ça m'interpelle un peu et je me pose des questions là-dessus. Moi, je préfère rester sur des valeurs de la République et sur l'universalisme.
L'un un peu plus que l'autre quand même, non? Sur la critique du système qui les a amenés là où ils sont.
C'est-à-dire lequel?
Je sais pas. Papa Ndiaye, peut-être qu'il critique un peu plus la société dans laquelle il a grandi. Qu'Éric Zemmour. Qui est plutôt nostalgique de cette société dans laquelle il a grandi, en fait.
Non, mais c'est pas une critique de la société dans laquelle ils ont grandi, c'est une critique des valeurs de la République et de l'universalisme que porte cette République-là. Et tous les deux le critiquent de la même manière, à égalité.
Jonathan Sixou.
Je ne suis pas parfaitement de ton avis sur ce point-là, justement. Et ça a été très bien montré dans le montage que vous nous avez montré. Zemmour semble défendre et continuer de faire la promotion de l'assimilation. Il parle d'assimilationnisme français, chose que Papa Ndiaye condamne comme étant du racisme parce que on abrogerait ainsi l'origine de voilà.
Oui,
je nuancerai un peu la lecture de ce point de vue-là. Je crois que pour le coup, effectivement, alors, indépendamment de la nostalgie, du discours de Zemmour, etc., sur ce point, la défense de l'assimilationnisme français est quelque chose de très important parce que plus beaucoup le prône l'assimilation aujourd'hui.
Élodie Huchard, en tout cas, on voit bien qu'il y a là deux visions irréconciliables. Ça va être compliqué de réconcilier les Français sur tout ça dans ces conditions. Est-ce qu'il y a trop de dureté dans le propos politique aujourd'hui?
Mais en plus, surtout, l'envoi des passes d'armes qui sont des vieilles querelles où Papa Ndiaye, comme Éric Zemmour, dès qu'ils peuvent trouver une occasion...
C'est un peu réchauffé, quoi.
De se confronter. Et forcément, ces deux visions de l'histoire, Papa Ndiaye, ministre de l'Éducation nationale, Éric Zemmour, qui veut monter sur ces thématiques, qui a fait un certain nombre de sorties, d'ateliers. Et finalement, c'est une attitude assez peu constructive parce que systématiquement, quand Papa Ndiaye est interrogé sur Éric Zemmour, souvent, il commence, c'est des propos, ça, du mois d'octobre. Je ne commente pas les propos d'Éric Zemmour qui relèvent de la récupération politique. Phrase suivante, lorsque l'on écrit que Pétain a sauvé les Juifs de France, oui, je n'ai pas d'estime pour cette personne, a fortiori quand elle parle de l'école. Donc on voit que forcément la polémique s'auto-entretient, que évidemment Éric Zemmour quelque part est ravi de ses attaques parce que ça lui permet de donner sa propre vision de l'école. Et surtout, ce qui interpelle, c'est que Pap Ndiaye, c'est un ministre en fait assez discret. On l'entend assez peu, y compris au sein de ses collègues au gouvernement. L'un des ministres me disait la semaine dernière, il faut des mots plus forts de son côté. Le discours n'est pas assez péchu, c'est un combat qu'on ne peut pas perdre. Je ne dirais pas qu'il y a un problème avec lui, mais il faut plus d'énergie. Et ce qu'on a peut-être du mal à comprendre dans la stratégie, c'est qu'on voit un ministre qui, là, forcément, va assez fort dans les mots contre Éric Zemmour, contre une partie de l'opposition. Mais sur le terrain, ce qu'on lui reproche, justement, c'est de ne pas avoir exactement ce même discours, par exemple, pour soutenir les professeurs ou pour dénoncer les atteintes à la laïcité.
Donc, au fond, il choisirait un peu ses batailles et ses combats. Là, ses fortés, mais pour le reste, ça l'intéresse moyennement. S'il a quand même donné les créneaux horaires auxquels l'école sera peut-être supprimée le matin s'il devait y avoir des délestages. Si, il a été très, très précis.
Ah, il nous a fait un point météo parfait ce week-end, effectivement.
Sur le fond, que disait Élodie, j'aimerais avoir votre réaction.
Élodie a parfaitement raison. Ils font pas beaucoup d'efforts, si je puis dire, pour se livrer à ce type d'échange. Ils n'ont pas besoin de faire certaines recherches et de se plonger dans les archives médiatiques de l'un ou de l'autre pour pouvoir. Ils sont chacun à sa façon dans l'outrance et facilement dans la caricature, d'un côté comme de l'autre finalement. Ça marche, regardez, on écoute, on commente, on lit et on attend peut-être le match suivant.
Mais sauf que ça fait plusieurs fois qu'ils citent les mêmes exemples l'un et l'autre.
Exactement.
Oui, c'est toujours la même rhétorique.
Ça me rappelle un peu d'ailleurs ce que j'ai connu en direct à l'Assemblée nationale et puis ce qu'on a connu aussi sur les télés, le match du garde des Sceaux contre Marine Le Pen. Hein, c'était à peu près pareil et chaque semaine il y avait une pique de l'un, une pique de l'autre et ça rebondissait là-dessus. C'est quand même effectivement quelque chose, des discours un peu réchauffés et des choses qu'on entend trop souvent.
Allez, on va s'interrompre. Merci Elodie
d'être passée
pour nous aider à décrypter un peu tout cela, décrypter le réchauffage des propos, si on peut dire ça ainsi. On se retrouve après une courte pause pour parler de la 9e vague de Covid et de cette question éternelle. Faut-il ou pas imposer le port du masque, mais dans quelles conditions? Parce que c'est pas si simple. Même si l'exécutif était tenté de le faire, on verra qu'il y a certains freins du côté de la loi, notamment. À tout à l'heure. Notre dernière partie, dans un tout petit instant, ce sera juste après le rappel des titres avec Alexis Vallée à nouveau. Rebonjour.
La ville de Strasbourg va attaquer l'État pour sa défaillance à mettre à l'abri les personnes à la rue. Elle explique que les moyens municipaux ne suffisent pas alors qu'un campement de 200 migrants était sur le point d'être démantelé. La maire écologiste de Strasbourg, Jeanne Barseguian, invite tous les élus et associations à se joindre à cette action. La SNCF verra un retour à la normale ce lundi. 3 TGV sur 4 doivent circuler pour le dernier jour de grève des contrôleurs. Ces derniers ont cessé le travail depuis vendredi pour réclamer une meilleure reconnaissance de leur statut. Ce week-end, ce sont près de 60% des trains qui ont été annulés, avec un risque toujours pour les fêtes de fin d'année. Et à Saint-Étienne, un homme de 71 ans est décédé dans un carambolage sur l'autoroute A72. Un accident entre un poids lourd et plusieurs voitures serait possiblement lié au verglas. Le bilan provisoire est d'un mort et de 3 personnes en urgence absolue, selon les pompiers.
Merci beaucoup Alexis. Et nous accueillons sur ce plateau le docteur Jamil Ramani. Bonjour, merci Bonjour. D'être avec nous. Je rappelle que vous êtes anesthésiste, réanimateur. Vous allez nous être bien sûr utile, précieux même dans les prochaines minutes pour la dernière partie de notre débat. Vous l'aurez compris, on va parler de la 9e vague Covid. Et allons-nous vers un possible retour du port du masque? En tout cas, si l'on en croit le ministre de la Santé, François Braun, n'écarte pas cette hypothèse, même s'il n'aime pas, dit-il, ce qu'on appelle la voie coercitive. On va l'écouter dans un instant, mais regardez ce qui est en jeu avec les chiffres et tout. Maureen Vidal.
La remise en place du port du masque obligatoire dans les transports, plus que jamais sur la table. Avec la triple épidémie qui frappe le pays en cette fin d'année et le nombre de contaminations qui augmente avec plus de 40 000 nouveaux cas en 24 heures à la Covid-19, le masque serait un moyen efficace de protection, notamment dans les lieux à forte promiscuité. Selon Brigitte Autrin, la présidente du COVARS, le comité de surveillance et d'anticipation des risques sanitaires, qui a remplacé le conseil scientifique.
Il faut aller vers un port du masque le plus possible dans les lieux clos.
Une décision qui pourrait être prise par le gouvernement selon l'évolution des contaminations. Autre point primordial pour les autorités, la vaccination. Tant pour la Covid que pour la grippe, le COVAR souligne l'importance et l'accessibilité à se faire vacciner et se désole du faible niveau de la vaccination. Pour le ministre de la Santé, François Braun, c'est une situation absurde. Il appelle toutes les personnes fragiles à se faire vacciner sans attendre. Le COVARS donnera un avis complet sur la situation épidémique dans les semaines à venir. Un avis que le gouvernement pourrait bien décider de suivre.
Avant de parler de l'aspect politique, j'aimerais qu'on parle évidemment de l'aspect médical. Et je me tourne vers vous, docteur Rahmani. Le nombre de contaminations aujourd'hui, est-ce qu'il doit arrêter d'être un critère? Je m'explique. Il faut s'en tenir uniquement au taux d'hospitalisation. Et en l'espèce, où en êtes-vous aujourd'hui à l'hôpital? Quelle est la situation?
La situation à l'hôpital, ce que nous disent les chiffres, c'est que l'augmentation en soins critiques des patients est de 20%, ce qui est très important.
En combien de jours?
En une semaine.
Ouais,
en une semaine, il y a une augmentation d'une vingtaine de pourcents, il y a une augmentation d'une dizaine de pourcents des hospitalisations. Donc ça, ce sont des chiffres tout à fait tangibles et qui montrent une réelle progression de l'épidémie. Alors, contre cette épidémie, que pouvons-nous faire? Bien sûr, les mesures barrières, d'une part, et la vaccination, d'autre part, bien évidemment. Alors, les mesures barrières, quelles sont-elles? Se laver les mains, se désinfecter au gel hydroalcoolique et porter le masque. Mais pas n'importe quel masque, parce que tout le monde n'en porte pas. Et que les seuls qui protègent vraiment dans les transports en commun, ce sont les masques FFP2. Et qui doit porter le masque? Ce sont tous les gens qui sont vulnérables, les plus de 60 ans, les gens qui sont atteints de comorbidité, les femmes enceintes. Et tous ceux qui côtoient des personnes vulnérables.
Et vous diriez que vous envoyez... Oui, c'est ça, parce que même on peut être bien portant à 25 ans et côtoyer des personnes vulnérables.
Bien sûr.
Parce qu'on va manger chez sa grand-mère tous les 3 jours. C'est pas... Voilà. Vous envoyez trop peu, à votre sens, des masques dans les transports aujourd'hui?
Ah bah, il n'y en a pas. Écoutez, j'ai pris le métro tout à l'heure.
Il y en a quelques-uns, mais c'est pas...
Non, il y en a très peu.
D'accord.
Non, bah, vraiment, on était 5. Sur une rame de 30, on était de 30 personnes, on était 5 à le porter, hein.
Mais non, pourtant, on clairement. Se dit qu'avec le temps, ce temps qui s'est écoulé, qui a passé depuis 3 ans pratiquement maintenant, les gens savent.
Mais non, mais les jeunes ne sont pas enclins à faire des formes graves. On le sait, hein, les formes graves, c'est au-delà de 60 ans, ou quand on est femme enceinte, ou quand on est hypertendu ou diabétique. Donc, on est déjà protégé. La situation est complètement différente avec celle des premières vagues de Covid. C'est-à-dire que l'ONU dit que près de 90% de la population mondiale a connu ou a été vaccinée et donc a une forme de protection. Donc ça me paraît difficile de réimposer dans les transports publics le masque dans la mesure où il y a un ras-le-bol. Vraiment,
il y a des pays où on ne l'a jamais abandonné. Hein. Je
oui, bien sûr. Il y a le Japon.
L'Espagne, la Grèce, mais même plus près de nous en Europe, la Lituanie, Chypre, ça, et même en Espagne, c'est obligatoire jusqu'à mars 2023, donc pour parer à la fin de la...
Non, mais si la vague était une vraie submersion, entraînait une submersion du système de santé français, alors oui, je pense que...
Alors, on va y en parler, justement. Mais juste sur le plan purement médical... Est-ce que vous considérez, vous faites partie de ceux, beaucoup de Français pensent ça, que ceux qui devraient avoir cette fameuse quatrième dose ne jouent pas assez le jeu, c'est-à-dire les personnes plus âgées et plus vulnérables?
Oui, bien sûr.
Mais pourquoi on a échoué en la matière?
Moins de 10% des personnes vulnérables ont reçu le vaccin bivalent. C'est celui-ci qu'il faut faire. Alors je m'explique, le vaccin bivalent, c'est le vaccin qui agit contre la souche originelle du virus et contre les variants Omicron, BA4 et BA5. Et je rappelle que le BQ1.1 est un variant qui vient du BA5 et qu'il est sensible à la vaccination. Et c'est lui qui est en train de prendre le pas sur les autres variants en France en ce moment.
Donc, moins de 10%, ça veut dire qu'il y a une défiance chez ces gens-là aussi, qui pourtant sont au contact de leur médecin en ville, des infirmiers.
Il faut dire qu'il y a une lassitude. Il y a une lassitude vaccinale. Les gens se disent, écoutez, moi j'en suis déjà à 3 voire 4 doses et on me demande d'en faire une quatrième ou une cinquième, Ça suffit bien. Et puis, il n'y a pas eu, alors qu'on voyait bien qu'il y avait une amorce d'augmentation des cas, il n'y a pas eu de politique réelle d'incitation au vaccin.
Alors, on va écouter sur le port du masque François Braun qui disait, bon, s'il faut en venir à ça, on le fera.
Ne faiblira pas.
Je ne suis pas très enclin à le faire. Néanmoins, on va s'interroger aussi à la sortie de cette intervention du ministre sur la faisabilité de ce qu'il nous promet.
Je suis l'évolution de la situation jour après jour. Pour l'instant, le masque n'est pas obligatoire dans les transports en commun. C'est sur la table des discussions. En fonction des résultats, nous aurons demain les publications mises à jour de Santé publique France. Nous verrons où nous en sommes et la décision sera prise en fonction de l'évolution de la situation. Est-ce que j'ai l'impression d'avoir peur de quoi que ce soit? Non, j'ai pas peur. J'ai absolument pas peur. Et vous savez, mon travail en tant que ministre de la Santé, c'est de protéger tous nos concitoyens et prioritairement les plus fragiles comme ceux que j'ai vus ici aujourd'hui.
Alors certes, son bras tremblera peut-être pas, mais c'est pas si facile que ça, pas si simple à mettre en œuvre ce qu'il dit, parce qu'avec la fin de l'état d'urgence, on ne peut plus imposer aussi facilement sans passer par la voie parlementaire. Sur le plan législatif, désormais, on sait qu'avec la recomposition de l'Assemblée, ce ne sera pas si simple que ça à faire voter non plus. Et puis, reste la possibilité du décret, mais là encore, on s'est renseigné, attention, de ne pas se faire retoquer par le Conseil d'État au nom des libertés individuelles. Donc finalement, tout ce qu'il nous dit, on n'y est pas du tout encore, Jonathan Sixou.
Non, c'est pour ça que les appels à la responsabilité des Français, comme ils le sont prompts à en lancer concernant l'électricité cet hiver, et à toute sa légitimité en la matière du port du masque. J'avais juste une question peut-être pour affiner ma réponse à mon voisin.
Allez-y.
Vous nous disiez que les hospitalisations ont augmenté en une semaine.
Oui.
Qui sont ces personnes qui sont aujourd'hui hospitalisées en urgence? Quel est le profil de ces gens?
Généralement, ce sont des gens qui ont plus de 60 ans et qui sont atteints de comorbidité ou qui n'ont pas été vaccinés ou qui sont en retard d'une dose de vaccin.
Voilà ce que je voulais entendre, merci. Pourquoi? Parce que ces campagnes gouvernementales de santé publique doivent être ciblées et elles ne le sont pas. On a nos 2 ans d'expérience en la matière désormais. On sait qu'effectivement, un jeune de 15 ans en bonne santé, il n'a quasiment aucune chance de finir aux urgences. On sait qui est aux urgences et on sait qui potentiellement peut, j'aime pas le terme, mais engorger les urgences comme ça a été le problème ces derniers mois. Ciblons, et pour le coup, pour certaines populations franchement à risque, imposons, comme on l'a imposé à travers des passes en tout genre, imposons la vaccination, imposons différentes choses que le gouvernement pourrait être en mesure de faire, d'autant que là on parle d'une population qui se réduit énormément dès lors que le filtre ne permet de faire passer que ces gens-là. Les campagnes ne seraient plus des campagnes nationales de si grande ampleur.
Jean-Michel Fauvergue, on se trompe de combat aujourd'hui?
C'est-à-dire, c'est...
En faisant porter à tous les Français qui empruntent les transports la responsabilité épidémique, alors qu'on n'a peut-être pas procédé au bon choix.
Je pense qu'il y a... On en parlait tout à l'heure pour l'électricité. Je pense qu'il y a une responsabilité individuelle aussi. Je veux dire, chacun aussi réagit individuellement. Vous demandiez pourquoi tout à l'heure les gens portaient de moins en moins le masque et se faisaient de moins en moins vacciner. Parce qu'on est sorti du match. On est sorti complètement du match du
Covid. On
est passé à autre chose. Et autre chose de avec l'énergie à temps plein quand même. Et donc effectivement, là où je suis assez d'accord, c'est qu'il faut repartir sur des campagnes où il faut demander à remettre ce masque et à se vacciner, mais des campagnes beaucoup plus offensives. Maintenant imposer le port du masque et la vaccination qui n'a jamais été imposée. Mais c'est quasiment de l'ordre de l'infaisable, avec, effectivement, vous l'avez dit, la majorité que l'on a. Il faut passer par la loi. Pourquoi pas essayer? Mais à mon avis, on n'arrivera pas là-dessus.
C'était une quasi-imposition de la vaccination. Mais oui, pardon, mais tous les détracteurs de la vaccination vous le diront. Imposer le pass sanitaire dans les conditions dans lesquelles il était imposé, non, c'était tordre le bras à tous ceux qui ne voulaient pas le faire.
Mais il n'y a pas eu au sens légal du terme, parce que ça ne serait pas passé.
Oui, on peut jouer sur les mots.
Non, mais il n'y a pas eu de... Alors, de toute façon, ça sera... aujourd'hui, difficile d'imposer quoi que ce soit. Donc, il faut que les gens reprennent conscience que, effectivement, il y a une augmentation de la pandémie et il y a une augmentation des hospitalisations.
Il nous reste que quelques secondes, mais j'aime toujours poser cette question dès qu'on a un praticien en plateau. Est-ce que là, la réintégration des soignants non vaccinés, les quelques centaines d'entre eux qui sont au contact du public, aurait été précieuse dans le cas où il y aura un afflux massif?
Bon, aurait été précieuse. En France métropolitaine, il y a quelques centaines de personnels qui ont été suspendus. Donc ça ne changera pas grand-chose,
d'accord,
clairement. À titre personnel, je l'ai dit et je le redis sur ce plateau, non, je suis pour la réintégration. Non, moi je suis pour la réintégration.
Parce que vous nous dites qu'il faut vacciner. Ils ne sont pas vaccinés.
Non, mais il n'y a pas de justification scientifique à l'exclusion des soignants.
D'accord. Ouais,
mais on peut pas dire vaccinez-vous et être pour la réintégration, c'est pas possible.
Je parle de façon scientifique. Il n'y a pas
d'indication scientifique à vacciner les soignants dans les conditions actuelles, puisqu'on sait que le vaccin ne prévient pas de la contamination et ne
n'empêche pas d'avoir
et n'empêche pas d'attraper le Covid. C'est tout.
Mais alors,
c'est pour les personnes à risque.
Aux gens de
non, mais c'est toujours la même question de cibler les personnes à risque et qui pourraient en mourir. Voilà. Les autres peuvent s'en passer de votre point de vue. Voilà. On connaît maintenant votre état d'esprit.
C'est mon point de vue. Non, mais c'est un point de vue personnel et humain. On a mis sur le carreau des centaines de personnes. On a suspendu leur salaire. C'est justice de le remettre dans le circuit dans la mesure où il n'y a pas de justification scientifique.
Merci à tous les trois de nous avoir rejoints. C'est déjà la fin de cette émission. Dans un instant, vous retrouverez Laurence Ferrari et ses invités. Punchline, bien sûr, comme tous les lundis. Et Laurence qui reçoit à 17h30 Loïc Le Floch-Prigent. On en parlait tout à l'heure. Voilà, vous aurez peut-être encore d'autres éclaircissements sur ce qu'il pense de la politique à venir des délestages du gouvernement. Excellente fin de soirée et d'après-midi déjà sur notre antenne. Et à demain, 15h30.
Merci.
Retrouvez tous nos programmes et plus sur cnews.fr.